La pause théine Vie Pro. 15 minutes avec nos experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Pierre Tocci. Je suis votre animateur pour cette pause théine. Nous en sommes à notre 22e édition. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de jaser avec mon collègue François Paquette, qui est spécialiste analytique et aide à la décision. Bonjour François.
Bonjour Pierre, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui, notre thématique en cette pause TI, c'est l'analytique avancée, un avantage concurrentiel accessible à votre organisation. Bien sûr, on parle d'analytique, on parle d'intelligence artificielle, mais dis-moi François, si on veut démarrer un projet d'analytique, combien d'analytique avancée devrais-je dire? Comment doit-on s'y prendre?
C'est sûr, Pierre, pour commencer un projet analytique, il faut premièrement avoir un besoin d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'on veut régler en premier? Quelle est l'orientation de l'entreprise? C'est-tu d'augmenter les coûts, augmenter les revenus plutôt, diminuer les coûts? Je pense que c'est beaucoup mieux de même. Et aussi, faire une différenciation dans le marché. Comment on veut se différencier? Donc, il y a beaucoup d'éléments, plus de réflexion à se faire au niveau de la stratégie avant de commencer un projet analytique. On peut pas mettre les composantes sans avoir vraiment quelle est la raison pour qu'on le fait.
Selon ce que tu me dis, je serais porté à penser que les gens partent un projet d'analytique en disant « je veux avoir un outil et je veux faire un projet avec ça ». C'est pas ce que tu dis qu'on devrait faire.
Puis on est déjà en train de trouver la solution plutôt de regarder c'est quoi le problème. Alors, tu sais, il faut regarder un peu plus dans l'autre angle, dire c'est quoi la problématique, c'est quoi la cause, d'où ça vient, y a-t-il une récurrence, y a-t-il une problématique, qui a des effets collatéraux dans le fond, tu sais. C'est au niveau de ton service à la clientèle, l'expérience client, ou d'un point de vue de production. Alors, ça dépend de quel côté qu'on parle.
Mais quand tu me dis la problématique, y a-t-il une occurrence, est-ce que, tu sais, il y a une occurrence, j'ai un bris d'équipement. Est-ce que je devrais faire un projet analytique avancé parce que j'ai un bris d'équipement? Ou bien mes clients sont pas au rendez-vous? Est-ce que ça nécessite un projet d'analytique avancé?
Très bonne question. Pas nécessairement. Pas parce qu'il y a une situation qui s'est produite, mais qui se répète pas plusieurs fois. Ça veut pas dire que ça va se reproduire non plus. C'est peut-être même que ça se reproduira pas. Il faut vraiment voir plutôt la problématique comme est-ce que c'est quelque chose qui est répétitif? Puis combien de fois la répétition? C'est une fois par année, je pense qu'on n'en parlera pas. Mais si c'est plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, ben il y a peut-être une tendance, une corrélation qu'on peut faire avec un autre élément autour de ça. Et c'est là où l'intelligence collective de l'organisation va regarder quelle est la problématique, comment on peut la cerner. Puis ça fait du drill down qu'on appelle. Donc, aller plus dans la source du problème pour le comprendre, aller chercher la donnée à ce niveau-là. Est-ce qu'on a de la donnée maintenant? Où est-elle cette donnée-là? Peut-on l'interpréter? Donc, il y a quand même une recherche, une réflexion à faire avant de dire il nous faut une solution. Il faut voir c'est quoi la problématique puis comment on peut en ressortir.
Débuter un projet d'analytique avancé, c'est pas de dire j'ai un outil puis je vais lui lancer des données puis l'outil fait ta job, trouve-moi une solution. C'est pas du tout ça partir un projet d'analytique avancé.
Ce serait pas la bonne façon de le partir, du moins. Je pense qu'il faut que les parties prenantes aient une conscience de qu'est-ce qu'on veut réussir à améliorer. Prenons un exemple d'un client qui veut améliorer son service à la clientèle. Je peux bien dire, ben oui, mettez-vous un robot analytique, un robot virtuel ou un assistant virtuel. Mais je peux bien donner une solution, mais c'est quoi le problème? Est-ce que tes clients se plaignent? Combien de fois qu'ils se plaignent? Pour quelles raisons qu'ils se plaignent? Donc, on va aller en plus en la source de la problématique. Alors, je sais pas si tu vois un peu la façon que je peux... C'est bien beau d'avoir la solution, mais il faut aller vraiment plus, c'est quoi qu'on veut régler comme problématique. Et ça demande beaucoup plus de réflexion.
T'sais. Dans mon expérience, le projet que je fais en stratégie, on passe beaucoup plus de temps à penser au pourquoi de la chose, puis qu'est-ce qu'on veut à la fin. Donc, on pense beaucoup, beaucoup, beaucoup avant. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Puis quand on va coller de la technologie à ça, la technologie est toujours le bout le plus facile parce qu'on a fait tout le travail avant, le travail de réflexion. Est-ce que c'est la même chose pour un projet d'analytique avancé?
C'est exactement la même démarche qu'on va prendre, qu'on va vraiment faire plus de la réflexion. Toute la planification de la collecte de données, où elle est, quelle est la saveur, quelle couleur qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a comme forme, d'où elle est prise. Il y a beaucoup de systèmes dans un environnement d'entreprise, donc on veut prendre la donnée de où. Souvent, c'est en silo, il faut les remettre ensemble, peut-être centraliser l'information. On voit une tendance en ce moment où ce qu'on veut centraliser dans le nuage, même qu'on parle en info nuagique, mais au moins le centraliser à un endroit pour que tout le monde puisse bénéficier. Comment valoriser cette donnée-là? C'est ça qu'on cherche à faire.
Ton point est très bon, l'info nuagique. On a fait un séminaire il n'y a pas très longtemps ensemble, toi et moi, puis on disait que les moyens d'aujourd'hui sont autrement plus accessibles que les moyens qu'on avait des années 50 lorsqu'on partit dans l'analytique avancée, parce qu'on n'a rien inventé, là, c'est des mathématiques. Là. Ça fait longtemps que ça existe. Exact. Donc, avec ce que tu vois, toi, chez tes clients, est-ce que l'info nuagique aide beaucoup la rapidité d'exécution, la mise en place, etc.? C'est quoi ton point de vue là-dessus?
Bien, le point de vue qu'on a puis l'expérience qu'on vit en ce moment avec les clients, puis on le démontre bien, que c'est sûr qu'en utilisant toute le calcul mathématique dans le nuage, t'as pas d'infrastructure à mettre chez toi. Donc, t'as pas besoin de te mettre un gros calculateur, des gros serveurs, de la capacité de storer l'information. Maintenant, tu peux tout envoyer ça dans l'info nuagique, comme dans le cloud, bien entendu, comme on dit, et faire les calculs à cet endroit-là. Donc, les algorithmes vont être calculés de façon plus rapide parce qu'on aura des capacités informatiques beaucoup plus grosses dans le nuage que dans ton environnement qui a peut-être une ou deux fois tu vas utiliser cet environnement-là pour faire des gros calculs. Tu peux le faire à l'extérieur. C'est accessible. C'est pas cher. C'est des services qui vont à partir de 5 $ par jour, aussi simple que ça, pour faire rouler un algorithme. Il y a vraiment des choses intéressantes maintenant que c'est plus accessible. Ce qu'on appelle la démocratisation de l'analytique maintenant qu'on regarde. Donc, comment on peut la démocratiser puis la rendre disponible à tout le monde.
T'sais, donc, j'ai une entreprise, on a identifié la problématique, on a fait le travail en amont. On dit, c'est ça le problème qui arrive, voici le résultat que j'aimerais avoir. J'aimerais aller vers telle chose. Okay? Mais dans mon entreprise, c'est qui va faire ça pour moi? Est-ce que j'ai besoin d'un mathématicien, un physicien? C'est qui fait ça? Non?
C'est pas aussi compliqué que ça l'était avant, je te dirais. Bon, ça reste quand même, il faut avoir un certain niveau de connaissance de l'industrie, le métier. Donc, une fois cet élément-là, après ça, travailler les données, ça se fait avec des outils beaucoup plus faciles. Donc, tu envoies tes données comme telles, donc tu as capté tes données, tu sais qu'est-ce que tu veux leur faire sortir un peu comme tendance ou orientation, tu les envoies dans le marché, dans un calculateur à l'extérieur, il va optimiser la réponse, puis on va te donner un résultat, et tu vas pouvoir dire, qu'est-ce que j'avais prévu de mon côté à le faire dans une façon mental et manuel, okay, versus le résultat automatisé avec une optimisation qui parce que c'était traité par une machine extérieure. Là, tu peux faire une comparaison, dire « Ah, OK, j'avais une bonne tendance ou j'avais pas une bonne tendance. » Puis le modèle mathématique représente peut-être plus la réalité que le modèle au pif, là, le pifomètre finalement. Le modèle en mathématique va être calculé à l'extérieur, mais va donner des résultats peut-être plus rapides aussi. Parce que tant de faire des modèles, des fois à la main, puis mathématiquement avec des fichiers Excel, ça finit plus, puis finalement, tu es en train de tomber dans la calcul mathématique trop élevé pour les capacités que tu as. Donc, c'est bien plus facile, même pour un analyste maintenant, d'envoyer ses données à l'extérieur puis recevoir un résultat. Donc, ça peut être une analyse d'affaires, ça peut être une personne au marketing, ça peut être quelqu'un à la logistique, au transport, des finances aussi. Beaucoup, on voit les tendances aussi d'utiliser l'analytique pour les finances. La fraude, le risque de management, risk management qui appelle ça, donc éviter les risques. Donc, l'analytique est utilisée pas mal par tout le monde de plus en plus. Puis, on voit des initiatives super intéressantes dans la vente, autant en vente qu'au marketing, avec les CRM maintenant. On fait parler la donnée, on écoute qu'est-ce que nos clients ont en commun, qu'est-ce qu'ils veulent définir, qu'est-ce qu'ils ont comme besoin.
Dans l'accessibilité qu'on parlait en entrée, c'est la puissance de traitement, mais on l'a à cause de l'info nuagique. Les connaissances acquises pour utiliser des algorithmes mathématiques, on les a parce que les plateformes nous les fournissent. Donc, on a besoin d'un expert dans le domaine qui serait normal. On veut pas arriver garbage in, garbage out, comme on dit. Puis c'est pas juste une histoire de lancer des données à un robot puis qui va te sortir une solution. C'est pas du tout ça, là, l'analytique avancée.
C'est pas le point.
Puis dis-moi, si je te demandais les erreurs à ne pas faire, c'est quoi les erreurs classiques?
L'erreur classique, c'est de vouloir avoir la solution on the spot, immédiatement fonctionnelle. Penser qu'il y a de l'automagie là-dedans, que ça se fait rapidement, puis qu'il n'y a pas de réflexion à avoir. Non.
L'automagie,
effectivement. C'est fait. C'est pas du café instantané qu'on fait avec l'analytique. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je pense que c'est plus le côté, faut faire de la réflexion, faut voir qu'est-ce qu'on veut corriger. Dans le dernier séminaire qu'on avait eu aussi, on parlait de différenciation. Sur quel niveau de différenciation qu'on veut être dans le marché, dans le fond? C'est-tu parce qu'on a un meilleur coût, peut-être un meilleur positionnement au niveau de notre offre, parce que notre offre est unique? Qu'est-ce qu'on veut sortir? Qu'est-ce qu'on veut être différent des autres? Mais il faut faire ces réflexions-là d'entreprise, puis celle-là, c'est là où il y a beaucoup moins d'efforts qui est fait. Les gens pensent aller tout de suite vers la solution. C'est peut-être pas la bonne façon de faire. Puis, tu sais, c'est un modèle itératif, hein? Donc, on essaie, erreur. Donc, ça va être normal et c'est un projet d'analytique avancée. Ça va demander quand même des efforts, mais des efforts de réflexion, de dire est-ce que c'est le bon modèle, puis de revoir, de toujours se reposer la question.
Donc, ce que tu dis dans les essais-erreurs, là, si moi, j'ai encore dans mes fonctions, je regarde le risque d'entreprendre une transformation, okay, que ce soit n'importe quelle transformation au niveau des TI, si j'y vais à petits pas, comme tu dis, risque-erreur, avancée itérative, donc, on mange un éléphant une bouchée à la fois,
exact,
qu'on risque beaucoup moins d'investir de grosses sommes d'argent, de beaucoup de cycles de temps, de monopoliser des gens de plancher ou des experts qui font rouler la business. Si j'y vais comme ça, avec l'accessibilité à l'analytique avancée, va me permettre d'éviter ces choses-là puis de dire, ben dans le fond, on n'a pas de besoin parce que ça coûte trop cher.
C'est ça. Puis tu vas toujours avoir des étapes. C'est pour ça qu'on dit que c'est un processus étapiste. Mais c'est normal et c'est correct parce que tu vas toujours t'améliorer. Et plus qu'on s'améliore, comme les algorithmes, ils s'améliorent avec le machine learning, plus ton modèle va se raffermir, plus ton modèle va être plus précis, plus ta précision va être bonne pour ton prescriptif après ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter que ça arrive la prochaine fois? C'est ça qu'on veut faire aussi, c'est comment améliorer le modèle. Puis c'est ça que l'analytique avancée va vous permettre de faire, c'est d'aller tester, faire des corrélations, puis comment je peux m'améliorer, comment je peux être plus différent dans le marché, puis à un frais tellement accessible maintenant plus qu'avant.
Oui, je comprends. C'est comme si j'embauchais quelqu'un qui a toute l'expertise pour une heure de temps, mais j'ai pas besoin de le former. Il a l'expertise, je le loue à l'heure.
Effectivement.
Donc, si j'étais pour résumer notre conversation, François, c'est que un projet d'analytique avancé, il faut déjà avoir en tête c'est quoi la piste qu'on veut ouvrir, découvrir, je pourrais dire.
Qu'est-ce qu'on veut améliorer ou on
qu'est-ce
veut
qu'on améliorer?
Se démarquer.
On peut pas juste de pitcher des données à un robot puis dire « trouve-moi quelque chose », ça fonctionne pas comme ça.
Ça fera pas ça.
Ça fera pas de résultat. Faut pas penser non plus que l'analytique avancée, c'est la solution à tout, comme l'intelligence artificielle, que ça va faire les choses pour moi.
Ça va t'aider à prendre une décision parce que tu vas avoir plus de choix. Tu n'auras pas juste une seule réponse aussi à ton modèle. Tu vas peut-être avoir 2-3 réponses parce que tu as des contraintes que tu vas modifier. Il y a des contraintes qui arrivent normalement dans une entreprise ou avec un client. Donc, tu vas les modifier puis tu vas avoir un résultat différent. Oh, OK, juste ce petit changement-là peut avoir une influence. Ça, ça aide à prendre une décision.
L'analytique avancée est vraiment en appui à ta décision à toi parce que tu demeures le chef.
On ne remplacera jamais l'humain. Ça va être bien difficile de remplacer l'humain dans tous les comportements qu'il peut avoir. Prenons les auto-autonomes. Est-ce qu'on ferait confiance en ce moment à un auto-autonome qui conduit sans chauffeur en arrière du volant? On ne l'a pas encore vu à ce niveau-là. Conditions météorologiques, la neige qu'on a, pas sûr qu'on laisserait un auto-autonome présentement se promener. Donc, l'humain est toujours au centre des choses. Et c'est ça qu'il faut revenir des fois au projet d'analytique avancée. C'est quel est le but, mais aussi quel est l'impact sur l'être humain aussi? Parce que c'est le client au bout de la ligne là, que tu veux satisfaire. Hein?
L'analytique avancée, dans le fond, là, on peut chercher à résoudre des gros problèmes ou des petits problèmes qui te pendent au bout du nez parce que tu les vois pas. T'sais, on est tellement dans notre paperasse puis dans notre petit monde, dans nous autres, là, que bien des sûr. Fois, on voit même pas ce qui est autour de nous.
Effectivement, puis c'est là où que l'analytique peut t'aider à déterminer. Il y a peut-être un petit projet, une petite problématique, puis peut-être que faire des petits projets comme ça t'amène à améliorer d'autres projets qui vont amener d'autres gros projets peut-être d'amélioration. Mais oui, il faut peut-être les attaquer d'une façon différente. C'est quoi le coût peut-être de ce petit problème-là qui apparaît? Y a-t-il un impact énorme sur la conséquence? C'est quoi la conséquence? Donc, une réflexion. Une fois que tu l'as mis en place, ben corrigeons par petites essais-erreurs dans notre environnement de laboratoire qu'on peut faire aussi.
Ben François, merci. C'était très intéressant. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que le contenu de cette pause TI est sur notre hub de contenu qui est à hub.novipro.com, aussi en version balado. Et au nom de François et moi-même, nous vous remercions et au plaisir de vous revoir très bientôt.
Merci, Pierre.
Vous êtes toujours à l'affût des dernières actualités TI? Accédez à une mine d'informations sur notre zone de contenu en ligne, hub.novipro.com.